On m'aura traité de tout dans ma vie, mais encore, on m'a jamais dit que je faisais partie des murs. Ah, ça démarre bien cette saison. Bonjour à tous et bienvenue en direct sur l'antenne de Graphite. C'est Biotine tous les samedis entre 12h et 13h qui existait avant même que la radio soit née. Je pense que c'est possible. En tout cas, on a démarré cette émission en 2008, si bien qu'on fête les 17 ans de cette émission où effectivement on peut se dire qu'on fait partie des meubles. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. Bah, en forme, oui, évidemment, parce que déjà on a pris des bonnes vacances. Hein. Je vous ai quitté. C'était en juin dernier et deux bons mois de vacances, c'est vrai que ça fait du bien. Enfin, deux bons mois de vacances sans radio, bien évidemment, parce qu'on a quand même une vie personnelle et professionnelle intense. Et puis évidemment la forme, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas rester insensible et collé sur votre chaise quand vous écoutez Vibra Soez juste avant, parce qu'on est obligé de danser vu toutes les musiques que Enrique nous met avec grand plaisir, bien évidemment. Bref, c'est la rentrée, c'est une nouvelle saison 2025-2026 sur l'antenne de Graphite avec vos émissions préférées du samedi, bien évidemment, ces émissions qui se passent en direct. Alors, est-ce que, parce que je découvre un petit peu tout, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des SMS, Enrique ? Oui, j'ai bien l'impression que le téléphone, il est connecté. Donc, 06 95 065 026. 06 95 065 026, si vous souhaitez également interagir en direct, bien sûr, nous envoyer des messages, uniquement des SMS, bien évidemment. Et il va tout éteindre dans ce studio parce que... Mais oui, il y a tellement raison. Moi, je ne fais pas de télé, je n'y arrive pas. On reste sur le média radio, bien évidemment. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission Biotine. Biotine, c'est comme depuis plusieurs années, bien sûr, l'émission qui feuillette la revue de presse de l'actualité scientifique. Il faut dire que pendant cet été, il y a quand même eu pas mal de choses que l'on va évoquer dans cette émission. On a eu un avion qui a subi un brouillage GPS. Alors, c'est pas n'importe quel avion, c'est l'avion de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ça a fait beaucoup parler et on va en parler dans cette émission, bien évidemment. Le Palais de la Découverte, qui est l'un des lieux les plus fantastique de la culture et de la vulgarisation scientifique est menacée. On va en parler dans cette émission. On a eu un été chaud, très chaud, si vous êtes resté en France. Mais la question, c'est quelles sont les villes qui vont désormais devenir totalement invivables à cause de ce réchauffement climatique. Et puis, on a appris aussi qu'il y avait une voiture électrique qui a explosé totalement les limites de l'endurance. C'est vraiment fascinant. On va parler de cela dans cette émission, bien évidemment. Et on va aussi parler de l'éphéméride. Et puis revenir quand même sur cet accident à Lisbonne, cet accident de funiculaire qui est le premier accident mortel depuis la mise en service de ce funiculaire. C'était en 1885. Ce funiculaire, il a 140 ans et c'est le premier accident mortel. Il y a 16 morts hein, selon le dernier bilan. Et en fait, on n'a pas encore véritablement d'informations sur les causes de cet accident, ce qui est quand même assez particulier. Il y a un journal local qui s'appelle Observador qui explique qu'un câble aurait cédé, ce qui aurait provoqué la descente incontrôlée de la cabine. Plus de frein, et cela aurait expliqué le fait que cette cabine s'est écrasée contre un bâtiment et qui a engendré ce nombre totalement épouvantable de décès. La société Caris, qui est l'exploitante de ce funiculaire, réfute hein, totalement cette information, ne veut pas préjuger les résultats de l'enquête, car oui, enquête a été lancée pour essayer de comprendre un peu les raisons de cet accident d'un funiculaire en 2025. C'est assez étonnant. Alors, on parle beaucoup de choses, hein, bien évidemment. On parle de maintenance ou autre. Peut-être que c'est un peu plus complexe que cela, mais aujourd'hui, hein, cet accident a eu lieu mercredi ou jeudi, hein, j'ai un doute sur la date précise, en tout cas ça a lieu cette semaine, et on n'a pas encore précisément les raisons de cet accident. Donc voilà, une actualité assez dense, assez dramatique bien évidemment, et on va voir cela tous ensemble sur l'antenne de Graphite.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Et nous sommes aujourd'hui le 6 septembre, c'est donc la rentrée. Et au niveau de l'éphéméride, le 6 septembre, il y a l'inauguration de la tour Perret de Grenoble. Alors ici, nous sommes basés à Compiègne. La tour Perret, on en connaît une en Picardie, c'est celle qui est à Amiens. Mais à Grenoble, il y a également une inauguration de la tour Perret. Nous sommes en 1925. C'est la première tour en béton armé qui est construite en Europe en 1925. Un peu plus récemment, 1952, toujours un 6 septembre, au salon aéronautique de Farnborough, c'est en Angleterre, le premier prototype du de Havilland Sea Rickson, ça se désintègre en vol lors d'une démonstration. C'est assez dramatique, ça a tué bien sûr les deux membres d'équipage. Il y a eu 27 spectateurs qui sont morts lors de ce salon aéronautique en 1952. Et plus récemment, en Inde, en 2019, les autorités spatiales perdent le contact de la fusée Vikram qui devait se poser sur la Lune. On n'en parle pas souvent de la course spatiale avec l'Inde. On parle quand même plutôt de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, bien évidemment. Mais l'Inde est aussi dans la course. Bon, c'était un peu plus défaillant, on va dire, en 2019 avec la perte du contact avec cette fusée. Mais en tout cas, faut pas négliger l'avancée de l'Inde dans ce domaine. Naissance, un 6 septembre, alors on va aller très très loin, au 18e siècle, nous sommes en 1766. John Dalton est né un 6 septembre, c'est un chimiste et un physicien britannique. Alors Dalton, on pense tout de suite à Lucky Luke peut-être, mais Dalton, ça a donné également le nom au daltonisme, parce que c'est son nom qui a été retenu pour notamment ses recherches à lui sur le daltonisme. Il a 28 ans quand il découvre qu'il n'a pas la même vision que le reste de la population. Alors, ce serait, selon certains, la difficulté pour lui à choisir une toge qui correspond à son rang dans les cérémonies universitaires. Et c'est ce qui lui aurait permis de prendre conscience un petit peu de son déficit dans la perception des couleurs. Et en 1794, il présente devant la Société philosophique et littéraire de Manchester un article qui donne la première description du daltonisme, donc une maladie dont il souffre lui-même. L'explication repose en fait sur des difficultés à corroborer sa vision des couleurs des fleurs avec celle des autres botanistes, et où les défauts de la vision colorée est donc né, notamment pour le rouge et pour le vert, et cette défaillance va donc porter dès lors à l'époque le nom de daltonisme. Il avait remarqué que son frère présentait les mêmes anomalies et il en avait tiré la conclusion d'une origine héréditaire possible de l'anomalie. Et avant sa mort, il a souhaité que l'on pratique, il avait dit « Je veux, quand je serai mort, une autopsie de mes yeux pour confirmer mon hypothèse ». Il considérait pour lui qu'il avait un déficit lié à une anomalie de coloration en bleu de son humeur vitrée. L'humeur vitrée, c'est le liquide qu'il y a à l'intérieur de l'œil. Et il considérait qu'il y avait une anomalie au niveau de la coloration en bleu de ce liquide. C'est ce qu'il considérait de son vivant. Ce sont des hypothèses qui avaient déjà été contestées de son vivant. Alors lui, il a dit, quand je serai mort, on va pouvoir ouvrir mes yeux et voir à l'intérieur. Bon, il s'avère qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. C'est bien à l'origine une anomalie génétique. On a fait en 1995, donc il y a une trentaine d'années, une analyse ADN à partir du prélèvement qui subsistait de ses yeux, et on s'était dit, tiens, on va faire une analyse d'ADN, et ça a bien confirmé que John Dalton était bien porteur de l'anomalie génétique qui est caractéristique du daltonisme. Donc c'est bien une maladie génétique qu'il avait aussi un petit peu, s'était dit qu'avec ce côté héréditaire avec son frère, il y avait sûrement un lien également. Donc naissance, un 6 septembre de John Dalton, et décès. Un 6 septembre 1915 d'Albert Fécamp, militaire français pionnier de l'aviation. Il effectue la première mission aérienne militaire française en 1910. Durant la Première Guerre mondiale, il reprend du service dans l'aéronautique pour effectuer des missions de reconnaissance au-dessus de la Belgique. Il va signaler le 20 août 1914, donc nous sommes quand même au début de la guerre, la tentative de contournement de l'armée allemande qu'elle réalise en en traversant la Belgique pour justement prendre l'armée française par le nord. Donc ça, il le réalise, il le visualise et il le signale. Il va participer à l'organisation des escadrilles de bombardement, ce qui permet à l'état-major de l'armée française de se rendre compte de l'utilité des bombardiers lors de la première bataille de la Marne. Il va mourir au combat, donc un 6 septembre 1915, au-dessus de Sarrebruck. Il est tué lors du retour d'une mission de bombardement. Son pilote, qui est lui-même blessé, va quand même réussir à ramener l'avion sur le territoire français avec donc le corps du lieutenant Albert Fécamp, décédé donc un 6 septembre 1915. Voilà pour l'éphéméride. Si vous ne savez pas quoi faire demain dimanche, eh bien il y a une éclipse de lune, une éclipse totale lunaire, hein. C'est un spectacle assez rare, donc profitez-en si le temps le permet, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Une éclipse de lune, ça se produit lorsque la lune, elle passe dans l'ombre de la Terre qui va donc s'interposer entre le Soleil et la Lune, ce qui va bloquer toute une partie, voire l'intégralité du rayonnement solaire qui va donc éclairer la Lune. Ce qui signifie qu'on s'attend à voir une Lune rouge, ce qui peut être quand même assez fascinant à regarder. Et donc c'est demain, et notamment en France, donc vous pouvez regarder la Lune. Alors ça va se passer en soirée, donc on n'a pas besoin de se lever en pleine nuit, parce que la Lune va se lever à 20h, et on considère que le maximum de l'éclipse aura lieu aux environs de 20h11, donc demain, dimanche, si vous ne savez pas quoi faire, à 20h11, eh bien vous pouvez regarder cette éclipse totale de Lune, bien évidemment. Ça peut être un très très beau spectacle, bien sûr, que je vous invite à... Vous pouvez nous envoyer après vos photos, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Voilà pour cette éphéméride et pour cette introduction. Biotine, c'est bien sûr de l'actualité scientifique. Alors j'ai beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. J'ai bien peur que cette émission va être trop courte, c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine comme à chaque fois. Je prévois toujours pour chaque émission des tonnes et des tonnes d'articles qu'on récupère essentiellement sur des sites vraiment très bien faits. Je pense à Futura Science, Science et Avenir, Science et Vie. Il y a vraiment des choses très accessible, très pédagogique, très didactique, que vous pouvez consulter d'une façon générale gratuite également, donc ce qui est quand même assez intéressant. Et j'en prévois plein, et en fait, en général, je ne peux en évoquer que la moitié. Parce qu'on a aussi un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite. Tiens, on parlait de l'Angleterre tout à l'heure. Eh bien, les filles d'Angleterre, c'est le premier titre que l'on va écouter de cette première émission de Biotine pour cette nouvelle saison. Vous êtes bien sur Graphite, à tout de suite.
Puisque je te dis qu'elles baissent les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura calvé le petit doigt, je te dis. Les Anglais disent I love you. Hey girl. Les Anglais disent I need you. Mais ils ne savent pas dire je t'aime comme nous. Ils préfèrent dire yeah yeah à genoux. Les Anglais disent I want you. Hey girl. Les Anglais disent I kiss you. Mais ils ne savent pas dire l'amour comme nous. Ils préfèrent dire hello girl. They love me. I'm John Lennon. They love me. Thank you.
semblent dire I hate you. Mais ils ne savent pas dire reste ici, ne pars pas. Ils préfèrent dire oh baby please, please don't leave me, oh don't leave me. Alors les filles, je vous en prie, restez ici, vous n'avez pas d'avenir à Chelsea. Ici, il y a ce bon vieux Eddie qui vous apprendra toutes les ficelles d'un French kiss à Paris.
Nothing, my darling. It's typical French.
Les filles d'Angleterre, c'était The Rebels of Tijuana, pardon, sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous avez la possibilité de pouvoir envoyer des SMS au 06 95 065 026 si vous nous écoutez en direct ce samedi. Enrique, si tu es dans ta voiture et que tu nous écoutes, sache qu'il y a un message qui nous est parvenu. Donc tu pourras le consulter, tu demanderas ça à la direction de Graphite. Mais vous, si vous souhaitez bien sûr interagir, réagir, 06 95 065. 65026.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Est-ce qu'on a frôlé une catastrophe aérienne doublée d'un accident diplomatique majeur il y a une semaine, le 31 août ? C'est toute une question, notamment lors de la phase d'approche d'atterrissage à l'aéroport de Plovdiv, c'est en Bulgarie. L'avion transportait Ursula von der Leyen, pardon, la présidente de la Commission européenne. Cet avion a été victime d'un brouillage GPS. Les pilotes ont dû poursuivre leur manœuvre en utilisant d'autres moyens, dont notamment des cartes papier, nous dit-on. J'adore ce côté totalement rétro et assez fascinant. L'avion s'est posé sans autre complication sur l'aéroport. Les autorités bulgares pointent le doigt vers la Russie pour cet acte de brouillage. Alors, la Bulgarie dispose d'une façade maritime étendue sur la mer Noire. Le pays pourrait donc être impacté par un système de brouillage russe probablement embarqué sur un navire. Alors même si un tel système positionné à Sébastopol en Crimée pourrait y parvenir, la distance reste trop considérable pour que le brouillage soit efficace. Or, il apparaît sur la cartographie d'un site spécifique, notamment le site GPS Jam, que ce fameux 31 août, le brouillage était puissant depuis la façade maritime jusqu'à loin l'intérieur des terres en Bulgarie. Alors, quel pourrait être le système de brouillage employé ? Eh bien, depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie utilise quotidiennement des brouilleurs militaires. Ils peuvent perturber les signaux GPS jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont essentiellement positionnés dans l'ouest de la Russie, en Crimée, au Bélarus. Et aussi à Kaliningrad, c'est dans cette exclave russe située à l'ouest de la Lituanie qu'il y a un dispositif qui s'appelle Tobol. Ce dispositif, il œuvre, il brouille pratiquement au quotidien le signal GPS pour l'ensemble des vols commerciaux ou militaires au-dessus des pays baltes, de la mer Baltique, mais aussi une partie de l'Europe du Nord. Alors pour ce qui est du type de brouillage, il faut savoir qu'il en existe deux. Il y a le spoofing et il y a la dégradation du signal. Alors, la technique du spoofing GPS, c'est la navigation des avions civils qui évoluent au Proche-Orient ou au Moyen-Orient qui est entravée par cette espèce de procédé qui va tromper les systèmes de navigation en repositionnant les points GPS à un autre endroit. Donc on voit très bien ce que ça peut donner comme complication. Mais dans le cas présent de l'avion d'Ursula von der Leyen, eh bien les autorités bulgares indiquent qu'il s'agit d'une perte totale du signal. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un signal qui a été déplacé, des points qui ont été déplacés. Ça a été totalement, ça a totalement disparu. Cela suggère donc qu'il s'agit d'un système de brouillage plutôt simple. Alors, est-ce que la perte du GPS est suffisante pour rendre la navigation aérienne dangereuse? Alors, oui et non, bien évidemment. Hein, c'est toujours assez complexe. Un avion, il est capable de conserver ses capacités de navigation en cas de défaillance du GPS. Il y a un système qui calcule la position en fonction des mouvements de l'avion. Le problème, c'est que s'il perd ses points de repère régulièrement, ça doit être recalibré, et ça doit être recalibré grâce au GPS. Sauf que si là, ça ne fonctionne pas, c'est assez compliqué, bien évidemment. Et comme autre instrument de navigation rudimentaire, les pilotes disposent du VOR. C'est un peu l'ancêtre des aides à la navigation. En fait, il s'agit de balises au sol qui sont positionnées sur le terrain d'aviation. Et donc, elles indiquent aux pilotes un petit peu une direction et une distance. Le problème, c'est que leur portée est limitée, et puis que ce système rudimentaire, il est moins précis, parce que ces VOR, là, ces VOR, ça a disparu du paysage, parce qu'ils sont très peu utilisés, étant donné qu'on a un GPS qui est de haute précision. Donc, ces balises au sol, au bout d'un moment, on ne s'en sert plus. Si on ne s'en sert plus, on les entretient plus, ça disparaît au fur et à mesure. Bref, c'est de moins en moins fiable. Reste donc l'ultime outil de navigation, c'est ce qu'on appelle l'estime, hein. C'est que le pilote doit réaliser sa navigation à l'ancienne, à l'aide de cartes, en réalisant des calculs basés sur la vitesse et le cap. Là où ça devient un petit peu dangereux, c'est que ça implique une grosse charge de travail des pilotes durant la manœuvre d'approche d'un terrain. Et les contraintes de cette navigation manuelle, entre guillemets, ça augmente donc les risques, bien sûr, parce que l'arrivée d'un ou de plusieurs autres problèmes d'ordre de technique, ça peut altérer la sécurité du vol et se le rendre dangereux. C'est-à-dire que s'ils sont en train de calculer leur positionnement et de faire à l'ancienne, donc avec des calculs et des cartes, leur plan de vol, entre guillemets, notamment leur plan d'atterrissage, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait d'autres soucis qui viennent s'ajouter, parce que ça peut bien sûr saturer la charge mentale des pilotes. Au sol, pour le contrôle aérien, eh bien, le GPS permet d'assurer la séparation précise des avions au sol. Là encore, s'il n'y a pas de système opérationnel, eh bien, on peut avoir des risques de collision qui augmentent. Enfin, il y a de nombreux aéroports qui utilisent des procédures d'approche basées sur le GPS. Et donc, sans celui-ci, les pilotes doivent donc basculer sur des procédures plus complexes. Bref, pour résumer, le brouillage GPS augmente donc le risque d'accident, même si les pilotes peuvent effectivement se passer du système de navigation par satellite et réaliser leur vol en toute sécurité. Mais en tout cas, cet incident, ça met le doigt sur un aspect que les forces armées prennent désormais en considération avec la création de forces spatiales, c'est-à-dire que la guerre moderne, elle se joue désormais dans l'espace et elle peut atteindre tout le monde. Donc c'est vrai que ça a fait parler, bien sûr, cet avion, tout simplement parce qu'il y avait la présidente de la Commission européenne dedans. Mais c'est assez quotidien, assez fréquent et assez compliqué, bien évidemment. Autre actualité qui a été évoquée pendant cet été. Alors, je ne sais pas si vous avez appris que le Palais de la Découverte était menacé. En tout cas, on s'en est rendu compte un petit peu cet été. Le Palais de la Découverte, bon, alors c'est quand même un lieu formidable qui est à Paris, à côté des Champs-Élysées. Si vous avez eu l'occasion d'y aller, vous savez à quoi ressemble ce Palais de la Découverte. Si vous n'êtes jamais allé, eh bien, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez visiter ce temple mythique de la science populaire. Ça se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Ce temple, on le doit au peintre André Léveillé et au prix Nobel de physique Jean Perrin. Jean Perrin, c'est le créateur du CNRS. Et ils ont utilisé, il avait notamment, lui, un petit peu travaillé sur les travaux d'Einstein. Donc c'est quand même un grand physicien. Et ces deux hommes avaient collaboré sur un espèce de projet de musée scientifique qui avait vu le jour au sein de l'Expo universelle de 1937. Le Palais de la Découverte date de 1937. et il n'était pas destiné à durer. Mais en fait, il a eu un vrai succès. Il y a eu 2 millions de visiteurs à la fin de l'année 1937. Et donc, du coup, le gouvernement issu du Front populaire de l'époque se décide à pérenniser ce palais de la découverte par décret. Et depuis, c'est quand même un haut lieu de la culture scientifique populaire. Et c'est tant mieux. Mais donc, aujourd'hui, le palais de la découverte est menacé. Alors, il avait fermé pour travaux depuis quelques années. Et il devait rouvrir cette année, 2025, sous une forme renouvelé, mais au dernier moment, alors qu'il devait être inauguré en juin avec plusieurs événements avant une réouverture complète à la fin de l'année prochaine, eh bien cette ouverture, cette pré-ouverture a été annulée sur fond de tensions avec le ministère de la Culture, mais aussi avec le directeur du Grand Palais qui souhaitait voir le Palais de la Découverte être déplacé. Et donc les salariés d'Universcience, alors Universcience c'est la structure qui gère à la fois le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Les salariés qui s'étaient très fortement impliqués dans la rénovation du palais de la découverte sont tellement inquiets pour l'avenir du futur palais qu'ils ont décidé, il y a quelque temps déjà, de lancer une pétition en ligne pour le défendre. Et donc, si vous souhaitez défendre le palais de la découverte qui semble être menacé, eh bien, il y a un site que vous verrez sur le site change.org, c'est un petit peu le site où il y a toutes les pétitions. Une pétition que l'on peut signer, qui a reçu le soutien de pas mal d'institutions, notamment l'Académie des sciences, le Collège de France, l'École normale supérieure, plusieurs universités, plusieurs associations de professeurs, également une cinquantaine d'institutions internationale et des très grands noms de savants et de chercheurs également. Aujourd'hui, j'ai regardé, il y a 124 000 signatures. Donc, si vous le souhaitez, vous vous connectez sur ce site change.org. Vous tapez sur le moteur de recherche pétition Palais de la Découverte et vous retrouverez facilement cette pétition parce que c'est un vrai risque. Ça a beaucoup fait parler dans le milieu de la culture scientifique cet été parce qu'effectivement, on considère que si on ferme ce Palais de la Découverte, c'est un lieu vraiment emblématique de la popularisation des sciences que l'on ferme sans véritable raison. En plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on a passé du temps à rénover un bâtiment et il est fin prêt, on ne l'ouvre plus, ça n'a aucun intérêt. Je vous parlais souvent du Palais de la Découverte au moment où il était ouvert, parce que là, il était en travaux. Mais il y a quelques temps, j'en parlais, parce que je trouve que c'est vraiment un lieu formidable qui permet justement de pouvoir comprendre les sciences d'une façon proactive. C'est-à-dire que le visiteur, il est impliqué dans les expériences. C'est visuellement très intéressant. Et puis, c'est quand même un beau bâtiment. On est juste en face du Grand Palais. Donc, c'est un petit peu ces bâtiments qui ont une vraie richesse architecturale, mais on visite ces bâtiments en plus de visiter ce haut lieu de musée scientifique. Il est totalement différent de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui, lui, date des années 80. On est sur quelque chose un peu plus moderne, enfin qui se voulait un peu plus moderne à l'époque, qui a peut-être un petit peu mal vieilli, la Cité des Sciences et l'Industrie, mais le Palais de la Découverte, lui, a vraiment quelque chose de très intéressant sur le fond et sur la forme. Donc si vous souhaitez signer cette pétition, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, ça serait dommage que les générations futures ne puissent pas visiter ce lieu qui est assez fantastique. Voilà. On va évoquer la suite de cette émission, cet été qui a été très chaud, et voir un petit peu quelles sont les villes françaises qui vont devenir invivables. Ça promet, parce qu'effectivement ça devient de plus en plus compliqué. On écoute Barcella sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Je veux être obligatoire au bac pour que les gens parlent de moi. Comment était-il Barcella et qu'ils analysent méthodiquement ma vie, mon œuvre, mon entêtement, et qu'il m'apprenne par cœur bêtement, et qu'il
des heures durant. Car il est vrai que c'est chiant d'apprendre ma vie, je veux être obligatoire au bac. Un sujet de 4 heures à l'écrit, un coefficient indéfini. Les notes ne pourront qu'être bonnes et je ferai partie des grands hommes qui sont obligatoires au bac. Je prouverai au monde que je suis quelqu'un. Tu vois, maman, je m'en sors bien. Preuve que l'entêtement gagné. Et les sales moments sont passés. Et le sale mot, maman, a germé. Verrai-je mon rêve, maman, s'achever. Sujet au bac, à lauréat, parce que je le vaux bien. Un sujet bâclé, bien trop de fois on n'y comprenait rien. Rien.
Eh ben, écoute, on va te rendre obligatoire au bac, Barcella. C'est apparemment le rêve de ta vie. Eh bien, c'était donc Barcella, obligation au bac sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Retour donc sur l'antenne de Graphite de cette émission Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Cet été a été chaud, très très chaud. Alors apparemment, ça a été le troisième été le plus chaud en France depuis le début des relevés météorologiques. Et le Parisien a compilé des données de météo en France pour un petit peu essayer de voir quelles seraient les villes qui vont devenir invivables et celles où il faudrait plutôt aller. Une France qui se réchauffe de plus de 2,7 degrés en 2050 par rapport aux températures pré-industrielles et même voire plus 4 degrés en 2100, eh bien toutes les villes vont subir le réchauffement climatique. Hein, c'est ce que précise l'auteur de cette enquête qui s'appelle Nicolas Béraud. Qui a donc géré cette enquête et qui une enquête qui a été publiée dans Le Parisien. Et donc, à partir de toutes ces données qu'il a pu récupérer au niveau de Météo France, il a listé les villes les plus menacées et elle se situe, je vais y arriver, sur la côte méditerranéenne. Alors, dans l'ordre, la ville qui va devenir la plus invivable sera Sète, en Hérault, Agde en Hérault également, Marseille, Avignon, Arles, Marignane, Montpellier, Martigues, la Seine-sur-Mer dans le Var et Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Donc il y a quand même des villes qui sont situées sur le littoral de l'Hérault qui sont donc les grandes perdantes françaises du réchauffement climatique. Elles connaissent aujourd'hui les températures les plus élevées. Elles devraient aussi subir les hausses les plus fortes, sans parler de la sécheresse, du risque de feux de forêt qui vont augmenter. Et donc les villes proches du littoral méditerranéen méditerranéen suffoque plus la nuit que celle du sud-ouest à cause de la mer Méditerranée, qui est souvent chaude, trop chaude, très chaude, et qui empêche les températures de baisser la nuit. Et on estime que plus de 100 nuits dans l'année pourront y être tropicales en 2100. Il y a à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers des nuits seront tropicales dans ces villes du littoral du département de l'Hérault. Enfin, c'est quand même assez effrayant. Ce qui rendra le sommeil très pénible, dit-il, c'est bien sûr toujours Nicolas Béraud, qui est responsable de cette enquête, qui précise cela. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Quelles sont les villes les moins menacées? Elles se situent en fait au niveau du nord-ouest, et la première ville la moins menacée serait Fougères en Ille-et-Vilaine. Il y a également Arsbrook, Lannion, Brest, Béthune, Armentières, Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais, Arras, Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime et Quimper. Donc c'est une ville d'Ille-et-Vilaine, Fougères, qui remporte selon cette enquête la palme des villes les moins infectées de France par le réchauffement climatique. Les villes les mieux classées sont souvent situées à l'intérieur des terres. Celles sur le littoral, elles sont pénalisées par la montée des océans. Mais il ne faut pas être trop loin de la mer non plus, parce que la proximité apporte de l'air frais, c'est ce qu'explique donc Nicolas Béraud. Alors, sur quelles données se base cette enquête? Eh bien, tout un ensemble de paramètres. La future température moyenne prévue pour chaque ville, le nombre de jours de forte chaleur, la quantité de précipitations, le risque de submersion des côtes, la prévision en termes d'incendie, les risques de sécheresse. Enfin bref, il y a quand même pas mal de données qui sont compilées, analysées pour pouvoir donner cette liste. L'urbanisation, c'est aussi un facteur assez important, parce que les villes les plus peuplées sont pénalisées par rapport à celles plus petites aux alentours. Tout ça à cause de l'îlot de chaleur urbain. Même au sein de la Normandie, il peut y avoir des déplacements d'habitants qui vont quitter le littoral pour aller plus un petit peu à l'intérieur des terres et fuir un petit peu ces grandes villes avec ces îlots de chaleur. Alors, c'est un classement qui était quand même pas mal diffusé. C'était cette semaine, je crois, ou peut-être même en fin de semaine dernière, je ne me rappelle plus. C'était notamment diffusé via Le Parisien. Je crois que Le Figaro avait également diffusé ces informations. C'est un classement parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres classements qui existent, qui sont effectués par des organismes internationaux, qui présentent des résultats un peu différents. Notamment en 2023, il y avait un organisme qui s'appelait XDAI. Il estimait que c'était les villes des départements des Hauts-de-France qui seraient les plus menacées de France en 2050 à cause du risque de submersion-inondation. On se souvient quand même qu'il y a eu pas mal d'inondations dramatiques dans les Hauts-de-France il y a peu de temps. Et donc, du coup, ça peut être aussi un risque assez flagrant pour ces villes-là. Donc, entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre la canicule et les inondations, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est vrai que c'est assez compliqué, mais en tout cas, voilà, on a eu un été très chaud. Ça avait été un petit peu prévu. On commence à comprendre que ça va être un petit peu notre quotidien les années futures. Mais là, on a eu quand même des périodes de canicule assez prononcées, essentiellement dans le sud de la France. Ça a touché quand même aussi jusqu'à la région parisienne. C'était début juillet, il me semble, de mémoire. Donc voilà, on est sur des analyses qui commencent à véritablement corroborer un petit peu ce que l'on dit en termes de réchauffement climatique. Toujours cet été, on a appris le décès du prix Nobel Rainer Weiss, qui était pionnier de l'étude des ondes gravitationnelles et du rayonnement fossile. Il est décédé le 25 août dernier. En fait, il faut revenir à une dizaine d'années en arrière. On en avait parlé dans cette émission. Nous étions le 11 février 2016. Les membres de la collaboration LIGOS aux États-Unis et ceux de la collaboration Virgo en Europe, ils annonçaient conjointement que le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO avait permis la première détection directe sur Terre de ces ondes gravitationnelles qui se propageaient dans la courbure de l'espace-temps. Ce sont des ondes qui avaient été prédites en 1916 par Albert Einstein. Alors, on ne va pas rentrer dans la physique de ces éléments parce que ça va être un petit peu complexe. En tout cas, cette annonce il y a 9 ans avait quand même été assez importante parce que on illustrait, on prouvait ce qui avait été prédit par Einstein il y a une centaine d'années. Ces ondes gravitationnelles Eh bien, ça provient de la collision suivie d'une fusion il y a des milliards d'années de deux trous noirs qui contenaient chacun des dizaines de masses solaires. Donc, on est sur aussi une échelle de temps qui peut être... Enfin, comment dire... On est un peu déconnecté de tout ça parce qu'on est plutôt dans une échelle de temps quotidienne. Et là, on est sur des échelles de temps qui datent de milliards d'années. Donc, effectivement, ce sont des phénomènes scientifiques assez complexe déjà à expliquer, mais qui nous dépasse largement, je pense, en termes de compréhension et en termes de repères, on va dire. En tout cas, derrière cette découverte, eh bien, ça ouvre une nouvelle ère pour l'astronomie. Il y a des milliers d'hommes et de femmes, des ingénieurs, des physiciens, des informaticiens qui sont menés depuis des décennies par plusieurs leaders, dont certains vont recevoir pour cela le prix Nobel de physique en 2017. Et parmi eux, donc Rainer Weiss, qui a donc obtenu ce prix Nobel de physique. Et donc, on a appris la nouvelle de son décès le 25 août, à l'âge de 92 ans. Ça s'est répandu dans les réseaux sociaux. Son décès est survenu dans un hôpital de Cambridge aux États-Unis. Il a finalement été confirmé par David Reitz, qui est le directeur exécutif du LIGO, donc ce fameux, cette équipe de collaboration. Weiss était né le 29 septembre 1932 à Berlin, dans une famille dont le père était un neurologue juif et un fervent communiste. Nous sommes en 32 à Berlin, effectivement, c'est pas le meilleur plan. Il va donc fuir l'Allemagne nazie et sa famille va donc se retrouver à New York, où Weiss a grandi. Il est passionné de musique classique et d'électronique et il gagne de l'argent adolescent en réparant des radios. Et son parcours, il est assez atypique et assez intéressant parce qu'il va réussir à entrer au mythique MIT à Boston. Le MIT, c'est le fameux Institut de technologie du Massachusetts. C'est-à-dire que là, franchement, c'est là où il y a les, si je caricature un peu, les plus grands scientifiques du monde sont là-bas. Je caricature un peu, mais en tout cas, c'est pour comprendre l'importance de cet institut. Donc lui, il arrive à rentrer dedans, mais il abandonne ensuite ses études en première année. Tout ça pour suivre une jeune pianiste à Chicago dont il était tombé amoureux. J'adore toujours ces histoires où finalement il a un destin, mais non, il va suivre cette fille pianiste à Chicago. Alors en fait, la relation ne va pas durer longtemps. Ça se termine assez rapidement et donc pour gagner sa vie, Weiss va finalement prendre un poste de technicien au MIT. Donc il va revenir au MIT, mais par une autre porte, une porte de technicien. Et en fait, par chance, il va se faire remarquer par un physicien qui s'appelle Gerold Zacharias, qui va lui remettre le pied à l'étrier et il va lui permettre de réintégrer le MIT, cette fois en tant qu'étudiant, ce qui va lui permettre de décrocher un doctorat en 1962. Gerold Zacharias, il travaillait sur les premières horloges atomiques de précision, hein, c'est un petit peu les ancêtres de celles qu'on utilise aujourd'hui, notamment pour le GPS, et ces horloges vont réorienter Rainer Weiss vers des tests expérimentaux de précision de la relativité générale d'Einstein, c'est-à-dire qu'il va vraiment tout de suite travailler dans ce domaine-là. Et fort de sa nouvelle expérience, eh bien, Weiss va retourner au MIT comme professeur adjoint en 1964. Il va créer un nouveau groupe dans son laboratoire de recherche en électronique qui sera consacré à la recherche en cosmologie et en gravitation. C'est là qu'il va donc découvrir qu'il devrait être possible de détecter les ondes gravitationnelles en utilisant des lasers. Donc c'est quand même une vie assez intéressante et un personnage totalement important dans le domaine des ondes gravitationnelles. Et il est donc décédé cet été. C'était aussi important de pouvoir lui rendre hommage, bien évidemment. On va aussi parler un petit peu de véhicules électriques. Et cette information qui est assez intéressante, qui s'est passée aussi cet été, notamment le 15 août. Il y a un constructeur chinois qui s'appelle XPeng qui avait annoncé avoir battu le record du monde d'endurance. Sa voiture électrique, elle a parcouru 3900 km en seulement 24 heures. C'était un véritable exploit. Eh bien, 10 jours plus tard, c'est à Mercedes d'annoncer un nouveau record et la marque Mercedes a totalement pulvérisé la performance de son rival. Mercedes a choisi de mettre à l'épreuve son concept qui s'appelle AMG GT XX. Bref, c'est une voiture d'une puissance de 1360 chevaux et ils ont fait ça sur le circuit de Nardo en Italie et le résultat est totalement surprenant. C'est-à-dire que cette voiture, elle a parcouru presque 5500 km en 24 heures. 5500 km en 24 heures, c'est-à-dire plus de 1500 km de plus que le précédent record qui datait donc du 15 août. C'est quand même assez faramineux. Mais ce n'est pas le seul record, hein, parce que ce concept de véhicule AMG GTXX a voyagé l'équivalent du tour de la Terre en moins de 8 jours. C'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire que la voiture a parcouru un total de 40 000 km en un peu plus de 7 jours et 13 heures. 40 000 km, c'est l'équivalent de la circonférence terrestre au niveau de l'équateur. Donc il fait le tour de la Terre, entre guillemets. Donc là, il a fait le tour du circuit, mais en termes de distance, c'est ce qu'il a parcouru en moins de 8 jours. C'est assez extraordinaire. Pour y parvenir, il y a 17 pilotes qui se sont relayés toutes les 2 heures. Ils ont roulé à une vitesse de croisière de 300 km/h. Ça doit être quand même exténuant de rouler à 300 km/h pendant 2 heures sans s'arrêter sur un circuit. C'est-à-dire que quelque part, tu fais toujours les mêmes mouvements. Ils étaient quand même 17 à se relayer, ce qui était quand même important. Alors Mercedes indique que cela a également nécessité une innovation au niveau de la batterie. Elle contient plus de 3000 cellules refroidies à l'huile qui assurent une tension de 800 volts. Cela a permis une recharge impressionnante de 850 kW. En fait, ça permet de gagner 400 km d'autonomie en seulement 5 minutes. C'est vrai que c'est aussi derrière une avancée technologique vraiment importante. Certaines des technologies de cette voiture sont déjà prévues pour les futurs modèles grand public. Mercedes précise notamment que les technologies de transmission utilisées sont déjà prêtes pour la production avec donc cette nouvelle architecture dès l'année prochaine. Donc c'était... Alors je trouve qu'on n'en a pas nécessairement parlé. J'ai pas eu l'impression qu'on a appris cela dans les médias nationaux, mais en tout cas cette performance de Mercedes qui vient donc de pulvériser les limites de l'endurance pour une voiture électrique, presque 5500 km en 24 heures. C'est faramineux, c'est extraordinaire. Allez, on parlait de soleil de cet été. Neige au soleil, c'est Bertrand Belin, c'est le dernier titre de cette émission avant de se dire au revoir.
Je cours, toi, tu cours devant, je souffle, je cours. Et toi, tu cours devant. J'entends, tu ris, tu cours et tu ris. Comment peux-tu courir et rire autant? Tes pas se plaquent, tapent, battent comme le cœur d'un oiseau perdu sur le tarmac. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil. Soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurais touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas. Vif ton puma, tu veux que je lance mes ordres de mon armée sur toi. Au bas de l'eau, arrête la route. Tu ne peux pas aller plus loin qu'une route. Ton avance fond comme neige au soleil, comme neige au soleil, neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je t'aurais touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Je jure qu'avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Avant le soir, je t'aurai touché la main. Méfie-toi, tu n'en reviendras pas. Tu n'en reviendras pas.
Neige au soleil, c'était Bertrand Belin sur l'antenne de Graphite. C'était vraiment doux, c'était vraiment sympa.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Je regarde l'heure, il est 12h52. Hein. Vous êtes peut-être en train de déjeuner, je vous souhaite un bon appétit. Vous êtes peut-être en train de faire autre chose parce que vous êtes en train de réécouter cette émission un mardi matin. Alors, je ne vous souhaite pas bon appétit, mais je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous êtes peut-être en train aussi de nous écouter en podcast parce que vous avez récupéré les podcasts sur le site graphite.net. Donc, je ne sais pas quelle heure il est au moment où vous êtes en train de nous écouter. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je regardais l'heure parce qu'il me manque... que ouais, je vais essayer quand même d'évoquer cet article de Futuration, ce que je trouvais vraiment intéressant sur la réorientation du spatial vers la guerre pour la France, en tout cas un souhait du président de la République Emmanuel Macron qui avait visité le salon de l'air et de l'espace au Bourget, c'était le vendredi 20 juin dernier. Différence notable avec sa visite précédente il y a 2 ans, c'est la ligne directrice de son inspection qui s'est pleinement orientée sur les enjeux de défense. Un domaine dans lequel les armées françaises excellent, mais n'égale en aucun cas la capacité des forces américaines, russes ou chinoises. Et donc, la suspension de l'aide américaine à l'Ukraine en mars dernier, après cet échange totalement délirant qu'on avait vu dans le bureau ovale entre Trump et Zelensky, eh bien, cette suspension de l'aide américaine à l'Ukraine a radicalement changé les stratégies de défense de l'Europe, qui est en manque d'appui spatial pour égaler les capacités de renseignement de leur... alliés américains un peu versatiles. Nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron le 13 juillet lors de son discours aux armées. Alors, il y a plusieurs points à évoquer, notamment la menace russe, hein, le rapport de force dans l'espace entre la France et la Russie, ça remonte à 2017 quand la Russie est accusée d'avoir espionné le satellite militaire franco-italien en orbite géostationnaire. Cet incident a d'ailleurs provoqué la création du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace en 2019. Et aujourd'hui, dans un contexte de la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de 3 ans, eh bien le rapport de force avec la Russie est toujours là. Et donc, au discours aux armées en juillet, Emmanuel Macron rappelle, je cite, « la permanence d'une menace russe aux frontières du Caucase à l'Arctique ». Alors, la Russie est une des premières puissances à avoir exporté le conflit en orbite, en brouillant plusieurs satellites de télécommunication au début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Si bien que dorénavant, la nouvelle doctrine de la force spatiale américaine considère l'espace justement comme un nouveau champ de bataille, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une autre dimension. Une crise aussi peut-être en Arctique. La situation en Arctique, elle devient de plus en plus tendue car les ressources sont plus accessibles avec le recul de la banquise. Et donc ce rêve un peu insolite de Donald Trump d'annexer le Groenland aux États-Unis accroît un peu la pression dans la région où s'est déroulé cette année un grand exercice militaire de l'OTAN pour avoir un exercice d'entraînement de défense de la Norvège en cas d'invasion. La région arctique, elle comprend d'importantes installations pour le spatial européen, notamment des antennes qui servent à la réception des données satellites. Et donc ces sites stratégiques sont proches de la frontière russe avec la Finlande et la Norvège. Et donc une guerre en Arctique, comme en Ukraine, pose des problèmes de communication entre les forces au sol et les satellites de communication en orbite géostationnaire. Et l'Arctique est naturellement difficile à couvrir en raison de sa position aux latitudes très élevées, bien évidemment. En Ukraine, il y a du brouillage. Les deux cas soulignent la nécessité d'un autre quatre types de communication satellite. Alors, il y a aussi un petit peu un défi de la dépendance à Starlink. Quand des entreprises s'imaginent devenir des États, hein, c'est toujours dans son discours aux armées, Emmanuel Macron fait référence à l'utilisation de Starlink comme moyen de pression sur le conflit ukrainien. Le réseau satellite est utilisé par les forces ukrainiennes, mais Elon Musk est intervenu plusieurs fois. Il a coupé le service en 2022 pour empêcher l'attaque d'un port russe en Crimée par des drones navals ukrainiens. Et en juillet, le 25 juillet de cette année, Reuters a révélé qu'Elon Musk avait aussi demandé en 2022 à couper Starlink pour stopper une opération de l'armée ukrainienne de reconquête d'un territoire autour de la ville de Kherson. Alors, quand il était encore allié politique de Donald Trump, eh bien Elon Musk avait menacé l'Ukraine de lui couper l'accès à Starlink, sauf que la plupart des terminaux utilisés dans le pays sont la propriété d'alliés européens, dont la Pologne, et donc l'accès à Starlink a aussi servi de moyen de pression sur plusieurs États dans la négociation avec Donald Trump sur leurs tarifs d'exportation de produits aux États-Unis. Donc c'est quand même tout est lié en fait quelque part, et pour l'Europe, hors de question de dépendre de Starlink. À la fin de l'année dernière, l'Union européenne a signé le contrat de lancement de la constellation Iris pour apporter un service souverain, mais probablement pas aussi capacitaire que Starlink. Toutefois, la mise en orbite ne commencera pas avant 2030. Donc en attendant, eh bien, les armées françaises pourront utiliser une autre constellation privée qui s'appelle OneWeb, propriété du groupe français Eutelsat, dans laquelle l'État français a annoncé investir plus de 700 millions d'euros. En fait, il faut un petit peu diversifier les moyens militaires en orbite. Si Emmanuel Macron est persuadé que le commandement de l'espace a besoin de plus d'innovation, l'avis est plus mitigé du point de vue des opérations où l'on cherche encore à identifier les possibles cas d'usage des nouveaux moyens à disposition. Ainsi, l'agence Innovation Défense de la Direction Générale des Armées a financé une multitude de petites missions spatiales de démonstration, dont la plupart reposent sur des nouveaux satellites commerciaux récemment mis en orbite. Alors, outre la menace russe, eh bien Emmanuel Macron a cité l'évolution de la Chine, qui a rejoint le club des grandes puissances spatiales militaires après avoir déployé de nombreux satellites dédiés aux télécommunications. Et pour rivaliser, eh bien Emmanuel Macron entend mettre en commun des moyens avec la Commission européenne, qui souhaite notamment une nouvelle constellation de satellites d'observation qui pourrait servir à la reconnaissance. Donc le président de la République propose aux investisseurs de capitaliser plus que jamais dans l'industrie de défense. Et pour guider tout cela, la stratégie spatiale nationale qui avait été demandée par François Bayrou encore aujourd'hui, Premier ministre, eh bien, ça devait être présenté au Bourget, mais il semblerait qu'elle ait été retoquée par l'Élysée, donc ça n'a pas été le cas, et elle sera finalement annoncée à l'automne. Et la France accueillera au début de l'année prochaine un Space Summit, donc c'est un petit peu l'idée de faire une espèce de grand sommet autour de l'espace, un petit peu à l'instar du sommet de l'intelligence artificielle qui avait eu lieu en février dernier. Alors, à quel prix? C'est la question, et c'est avec ça qu'on va se quitter. La première crainte, eh bien, la France va-t-elle rejoindre la course à l'arsenalisation de l'espace? Eh bien, les États-Unis, la Russie, la Chine en prennent le chemin, mais exporter le combat en orbite, c'est un jeu dangereux parce qu'il y a des opérations tactiques qui pourraient vite transformer l'environnement en foyer à débris spatiaux. Alors, on sait que déjà l'orbite terrestre est déjà surchargée. Deuxième crainte, l'augmentation du budget de la défense ne se fera pas sans mal. On sait très bien que c'est une grande problématique au niveau du budget et on a un Premier ministre qui risque de démissionner dans les toutes prochaines heures. Et troisième crainte, que va-t-il advenir du budget scientifique de l'Agence spatiale européenne en général? Parce que les États européens ont été forcés par Donald Trump d'augmenter leur budget dédié à la défense. Et donc, les États européens membres de l'OTAN vont inclure dans leur budget une contribution à l'Agence spatiale européenne, mais cela voudra dire que ces budgets seront consacrés à des missions de développement technologique et non à des missions scientifiques. Bref, c'est un vrai bouleversement assez intéressant dans cet article de Futura Science, bien évidemment, que on aura le temps, bien sûr, de pouvoir évoquer dans nos prochaines émissions. C'est la fin de Biotine sur l'antenne de Graphite. Il est 13h, presque une minute. J'ai un peu débordé, mais j'étais tellement bavard. Mais j'étais aussi très heureux de vous retrouver. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.